Oui, je suis né à Paris dans le 16e arrondissement en 1932. Oui, je suis de parents russes qui se sont rencontrés à Paris dans l'émigration. Ils allaient tous les deux danser dans un bal de l'immigration russe qui s'appelait Bal Krasnego Kresta, le bal de la Croix-Rouge. J'avoue ne pas avoir trouvé de documents sur ce bal qui se tenait pas loin de l'Étoile, n'est-ce pas, c'est-à-dire avenue Friedland. Ma mère, comme toutes les jeunes filles russes qui étaient là, donc préparait le thé au moyen d'un samovar et puis servait aussi des petits gâteaux, n'est-ce pas, avec d'autres jeunes filles. Et les jeunes gens qui venaient, buvaient ce thé, n'est-ce pas, mangeaient des gâteaux et dansaient avec les jeunes personnes qu'elles rencontraient. Voilà. Alors je sais qu'ils se sont fréquentés un certain temps, n'est-ce pas. Ceci se passait en 1929, vous voyez. Et moi, je suis né en 1932, mais mes parents se sont mariés en 1930, n'est-ce pas ? Ils se sont mariés en 1930. Donc, entre 29 et 1930, il s'est passé une année, au moins une année. Hein. Et mon père était venu de Kishinev. Vous connaissez Kishinev ?
Bien sûr, oui.
Kishinev, c'est en Bessarabie. Enfin, ça s'appelait Bessarabie, ou on dit Moldavie, n'est-ce pas ? À l'époque où la Bessarabie appartenait à la Roumanie. Parce que le pays passait de main en main, c'était soit la Russie, soit la Roumanie. Mais au moment où mon père vivait là-bas, c'était roumain. Donc mon père était citoyen roumain. Et la vie en Roumanie n'était pas simple. Elle était très difficile. Donc il a décidé d'émigrer, n'est-ce pas ? Donc il est parti pour l'Europe, il est allé en Belgique. Il est allé dans la ville de Liège, en Belgique. Et il a fallu travailler dur parce qu'il voulait faire des études, n'est-ce pas ? Et il a fait donc des études d'économie. Mon père a fait des études d'économie. Yakov Turgenev. C'est mon père, Jacques Turgenev. Jacques Turgenev. Yakov Turgenev. N'importe quoi. Yakov Zugilski. Zugilski. Et donc, il a fait ses études d'économie et il travaillait en même temps dans les mines de Liège, vous voyez, donc pour gagner sa vie. Puis alors, au bout d'un certain temps...
Zvigilski, alors, c'est le nom...
C'était dans dans au milieu des années 20, n'est-ce pas que oui. Et vers, donc, je pense, en 1929, il a dû descendre, comme on dit, à Paris, n'est-ce pas, de Liège jusqu'à Paris. Il a pris le train et là, il a fait la connaissance d'une colonie russe et il a fait la connaissance de ma mère. Donc, moi, je suis le seul enfant du couple. Hein. Je suis un fils unique. C'est pas très bien d'être fils unique, mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, je suis le fils de Fanny, qui est le nom de ma mère, et de Jacques Zvigilski, n'est-ce pas ?
Zvigilski, alors
Fanny Kroll, alors, elle était la fille d'un marchand de la première guilde, Первая гильдия, des marchands de Moscou. Donc c'était un notable, n'est-ce pas, de Moscou. Son fils, il a eu... bon, je parle de mon grand-père. Son fils... c'est-à-dire le frère de ma mère, n'est-ce pas, est devenu un révolutionnaire, n'est-ce pas, est devenu trotskiste. N'est-ce pas. Vous savez ce que c'est que les trotskistes.
Oui.
Et la première chose qu'il a faite, c'est de réquisitionner le magasin de son père. Parce que c'était un bourgeois, son père, n'est-ce pas. Les trotskistes n'aimaient pas les bourgeois.
Oui.
Bon, alors il a réquisitionné ça. Sa boutique, vous comprenez, c'est pas très gentil, enfin, mais mes grands-parents ont aussi décidé de leur côté de quitter la Russie, enfin, c'est la Russie soviétique, n'est-ce pas ? Ils sont allés en Allemagne, n'est-ce pas ? Et puis d'Allemagne, ils ont immigré vers la France. C'est pour ça que leur fille Fanny, n'est-ce pas, s'est retrouvée à Paris, n'est-ce pas ?
Et qu'elle alors, elle était née à Paris, elle, quand Fanny.
Ah non, 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 elle était née à Vitebsk.
À Vitebsk,
oui,
ok.
Oui, oui. Mm-hmm. Il s'agit de ma mère.
Mm-hmm. Alors, elle est...
Vous comprenez qu'il s'agit de ma mère, oui.
Bien sûr.
Oui. Oui. Bon, du côté de mon père, c'est mon grand-père, lui, il était à Kishinev, vous comprenez. Mm-hmm. Et je peux raconter la chose, enfin, c'est une histoire incroyable qui m'est arrivée à Kishinev, parce que je ne connaissais pas. Je suis allé à Kishinev pour la première fois, c'était en 1963. Mm-hmm. 1963, j'étais jeune, 63. Et j'ai été recommandé, enfin, par ma tante, qui était une Zvigilski, qui était l'épouse de mon oncle Mikhaïl, qui était mort, n'est-ce pas ? Donc, alors, ils avaient une fille qui est morte aujourd'hui, enfin, qui s'appelait Sylvie, et qui était colonel, je crois, ou capitaine dans l'armée rouge, n'est-ce pas, l'armée soviétique. J'ai une cousine qui était militaire, n'est-ce pas, qui a fait la guerre, n'est-ce pas. Non, c'est une héroïne, n'est-ce pas, aux côtés de son mari, n'est-ce pas. Donc lui était militaire et sa femme était militaire, c'est lui. La mère de Sylvie, ma tante, n'est-ce pas, Bertha, m'avait accueilli donc dans la ville où ils habitaient, c'est-à-dire Odessa. Alors c'est pas la même chose, Odessa et Kishinev, c'est pas pareil, n'est-ce pas, mais comme c'est pas bien loin, j'avais demandé à l'Ovir, vous connaissez ce que c'est que l'Ovir, à Delvisiregistratse. Vous connaissez pas ça?
Avir.
Oui.
Oui, je connais.
Vous connaissez.
Avir, bien sûr. Ouais, donc, oui.
Je vais demander à l'Ovir une autorisation pour aller me rendre à Kishinev. On m'a donné un tampon. Hein.
Ok.
Ubul, Gold Kishinev. Je suis allé là-bas. Quoi.
Ok.
Ouais. Je me souviens de la première impression. Je peux en parler de ma première impression?
Bien sûr, sans doute.
C'était dans un hôtel, n'est-ce pas, à Kishinev, que je venais pour la première fois. J'arrive, n'est-ce pas, il y avait un nombre impressionnant de gens qui étaient attablés, je ne sais pas, ils prenaient un verre là, dans l'hôtel, quoi. Et il y avait un poste de télévision. Alors ils regardaient, je ne sais pas si ça devait être un match de football, ils regardaient la télévision, quoi. Et puis à un moment, on est passé au journal, vous savez, le journal télévisé.
Oui.
Ils sont tous levés, ils sont tous partis.
Ah bon?
Est-ce que vous comprenez ça?
Non.
Трудно, видите. Вы человек еще советского периода, наверное, ну?
Да.
Но когда вы видели, что когда пришла речь о злободневном, о проблемах теперешних, актуальных, о политике, они все встали и ушли, да?
Les gens n'aimaient pas ça. Окей. Поняли? Oui, bien sûr.
Это большой интерес, который они питали к политике, понимаете? Но это забавно, не правда, что все встали и ушли, да?
Oui.
Ну, ушли,
les gens s'en fichent de la politique.
Oui.
Ce sont des choses qui ne les intéressent pas.
Voilà, vous avez compris. Vous comprenez? Okay. Oui. Vous n'avez pas compris.
Je n'ai pas compris.
Vous n'avez pas compris ça, oui.
Pas tout de suite.
J'avais demandé à ma tante d'Odessa de m'expliquer où se trouvait la maison des Zvigilski. C'est quand même ça. Je veux quand même savoir d'où je viens, n'est-ce pas?
Oui.
Bon. Elle m'a dit être далеко от рынка.
Loin du marché.
Там есть какой переулок, то есть перекресток, улица Фрунзе.
Un carrefour de la rue Frunze. Je traduis un carrefour de la rue Frunze.
Oui. Je me suis adressé à une personne que je connaissais pas et qui m'a indiqué le. Alors je suis allé, elle m'a amené au cimetière. Je suis allé voir la tombe de mon grand-père. Arrivé au cimetière, le gardien me dit. Zvigilski, mais il dit c'est le monument qu'on a volé cette nuit. Je dis quoi? Je lui dis mais c'est incroyable. Il dit oui mais les voleurs sont pas arrivés à le faire passer de l'autre côté du mur. Ils ont enlevé le monument Vous savez, un monument, une pierre, hein,
oui.
hein, en pointe, comme ça. Alors, ils ont enlevé le monument et ils ont été obligés de le laisser contre le mur. Vous voulez le voir, là? Je dis oui. Incroyable, hein. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable?
Oui. Oui, c'est
alors, incroyable. Ça, c'est les souvenirs que j'ai de Kishinev.
Mm-hmm.
Plus un froid extraordinaire. Il faisait moins 30 à Kishinev.
À Kishinev.
Oui, c'était l'hiver 62-63. Il a fait très froid.
Mm-hmm.
Et les gens de Kishinev ne connaissaient pas parce que quand ils sortaient de chez eux, c'est pas comme à Moscou, on gratte la neige, quoi. On tombait, quoi.
Mm-hmm.
Vous savez
Oui, parce que c'est glissant.
C'est glissant, oui, c'est glissant.
Mm-hmm.
Ouais. Ouais. Il fallait voir l'Abstanovka de Kishinev en février 1963. 1963. Ouais. Bon, enfin, je vous ai raconté des souvenirs. Hein.
C'est
je ne raconte jamais ces souvenirs. Personne
c'est très intéressant.
Personne ne les connaît. Il n'y a que vous qui les connaissez.
Okay.
Bon.
Très
voilà.
Bien.
Mais je ne vais pas insister là-dessus.
Est-ce que vous pouvez quand même parler de votre rapport actuel avec la Russie?
Oui. Ah ben ça m'intéresse énormément de parler de ça. Oui. Ouais,
vous vous sentez plutôt le russe ou vous sentez français?
Ah oui, alors la question, là, c'est, pour moi, c'est pas du tout ambigu. Moi, je me sens cosmopolite. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis venu à Turgenev, puisque Turgenev est un écrivain cosmopolite. Quoi. Il s'intéressait aussi bien à la vie, à la civilisation des autres peuples, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, comprenez, ou la France, où il a vécu longtemps. Mais... moi, je me sens un peu comme lui, vous voyez, c'est-à-dire, moi, je me sens français puisque je suis né en France, j'ai mes attaches en France, mais ayant parlé russe avec mes parents, vous comprenez, je suis bilingue, n'est-ce pas, je parle russe et je lis le russe depuis toujours, vous comprenez, puis j'ai fait des études de russe, des études à l'université, j'ai fait un doctorat sur un sujet... comparatiste, puisque ma formation est portée sur la littérature comparée.
Mm-hmm.
La littérature comparée, c'est le «Sravnitsyna literaturovid», on dit en russe, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
C'est-à-dire la comparaison entre les différentes littératures du globe, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Et moi, je me suis intéressé à une littérature extrêmement différente de la littérature russe, qui est la littérature espagnole. Je suis hispanisant aussi.
Mm-hmm.
Je suis à la fois savisant et hispanisant. Donc j'ai fait une thèse de doctorat, je suis docteur philologique, docteur d'État et lettres, sur les relations entre la Russie et l'Espagne au XIXe siècle.
Mm-hmm.
Oui. C'est surtout la présence de l'Espagne en Russie. Vous voyez,
mm-hmm.
C'est de ce côté-là, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
C'est-à-dire chez les écrivains... chez les écrivains russes de la première moitié du XIXe siècle. Il y a évidemment Turgenev, mais je ne m'occupais pas spécialement de Turgenev. Hein.
Mm-hmm.
Turgenev m'intéressait parce que dans la mesure où il avait écrit un discours, une œuvre sur Gamlet et Don Quichotte. N'est-ce pas?
Mm-hmm.
Donc, c'était extrêmement important son approche du personnage de Cervantes. Oui.
Mm-hmm.
Oui. Alors, bon, je me suis occupé de différentes questions, mais c'est surtout des questions politiques, culturelles et littéraires, n'est-ce pas? Il y avait les trois, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Alors, parmi les choses littéraires, donc évidemment, je vous ai parlé de Turgenev, mais enfin, il y avait également Dostoïevski, puisque Dostoïevski parle du grand inquisiteur, vous savez.
Mm-hmm.
Dans Bratia Karamazov, oui, c'est une œuvre capitale, très très grande importance. Oui. Il y a du côté musical aussi, je me suis beaucoup occupé d'un compositeur, du père de la musique russe, de Mikhail Glinka, qui a fait qui a composé des œuvres d'inspiration espagnole, puisqu'il a vécu en Espagne, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Nous savons ce qu'il faisait, comment il travaillait, grâce à ses lettres à sa mère, n'est-ce pas? Les lettres de Glinka à sa mère sont d'un très grand intérêt, parce qu'il racontait tout à sa mère, et nous savons comment il faisait venir chez lui des danseuses, des musiciens espagnols, des gens du peuple, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Il y en avait un qui s'appelait le Murciano, qui était complètement analphabète, il ne savait ni lire ni écrire en espagnol, mais, mais il avait une guitare, n'est-ce pas, et il composait en improvisant, n'est-ce pas, c'est-à-dire il improvisait. Mais ces improvisations ont servi à Glinka pour la jota aragonaise, n'est-ce pas, c'est une œuvre de Mikhail Glinka, n'est-ce pas, mais qui s'appuie sur des airs entendus, composés par le Murciano, par ce personnage phénoménal qui avait un don musical étonnant, n'est-ce pas, un homme très très simple, n'est-ce pas. Voilà. Alors Glinka se sentait comme chez lui, n'est-ce pas, il était content qu'il soit à Madrid, qu'il soit à Séville ou à Grenade, il était comme chez lui. Ça alors j'ai publié, enfin c'était déjà connu, mais enfin l'album espagnol de Glinka, n'est-ce pas, où il a fait le portrait des différentes personnes qu'il avait rencontrées là-bas. Enfin, c'est vraiment, ça a beaucoup marqué ce compositeur. Ça m'avait beaucoup intéressé, n'est-ce pas, cette chose-là. Je me suis occupé aussi dans ma thèse d'un ingénieur et architecte espagnol qui s'appelait Betancourt et qui est l'architecte du manège de Moscou, n'est-ce pas. C'est lui qui a fait le manège. Il a eu l'idée de faire un monument pour que les cavaliers puissent circuler, n'est-ce pas, sans avoir des colonnes, n'est-ce pas. Il tient tout seul, n'est-ce pas, sans colonnes. C'est l'idée de ce Betancourt. C'est lui qui a aussi eu l'idée de planter des arbres sur les routes de Russie. Il s'est occupé des canaux de Saint-Pétersbourg, Canale. Il a été l'ami intime d'Alexandre Ier. N'est-ce pas ? C'est un homme qui a fait énormément pour la Russie. Et c'était un Espagnol, n'est-ce pas ? Donc j'ai retrouvé d'ailleurs dans les îles Canaries, puisqu'il était il était canarien, n'est-ce pas ? C'est un territoire qui appartient toujours à l'Espagne, n'est-ce pas ? Les îles Canaries. J'ai trouvé chez des descendants de ce Betancourt des lettres du tsar Alexandre Ier, vous vous rendez compte, Zapiski, parce qu'il en avait fait un ministre, une sorte de ministre, pas officiel, mais c'est un homme qui faisait tout pour l'administration du domaine, vous comprenez, pour améliorer la vie des citoyens russes. C'est important. Sous Alexandre Ier. Alexandre Ier a beaucoup aidé les artistes, vous savez ça.
Oui.
Et il a été aidé aussi par eux. Quoi.
Oui,
la cathédrale Saint-Isaac de Pétersbourg a été faite d'après des plans aussi de Betancourt. C'est pas mal, ça. C'est un homme qui a énormément fait pour la Russie. C'est un homme. Il s'appelait Augustine, enfin en russe on dit Avgustine, je crois.
Augustine,
Imiv, son nom. Ouais. Alors je me suis beaucoup occupé de ce personnage pour trouver que ça entrait les relations entre la Russie et l'Espagne. Je vous parle de ça parce que vous ne pouvez pas le savoir, c'est pas publié, c'est une lettre, c'est une thèse qui est dactylographiée, qui a 800 pages, n'est-ce pas. Je ne peux pas tout raconter, mais enfin, il y avait naturellement dans le lot. Des écrivains et parfois des critiques. Il y en a un qui est très important, qui est Vassili Petrovitch Botkin, dont j'ai publié dans le Littérature n'est pas métnique. Vous savez que c'est une collection extrêmement importante de l'Académie des sciences de Russie. Littérature n'est pas métnique. J'ai publié avec mon ami le professeur Boris Fyodorovich Yegorov, qui doit d'ailleurs venir bientôt à Paris. Boris Fyodorovitch m'avait proposé de publier avec des commentaires de moi, et lui évidemment il a aidé parce qu'il est, c'est un spécialiste de la littérature russe du 19e siècle. Donc j'ai publié les Pismes ab Espagne. Pismes ab Espagne, Vassili Petrovitch Botkin. C'est un livre magnifique, vraiment. C'est le seul livre que Botkin ait écrit, n'est-ce pas. C'était. Turgenev l'avait en très haute estime. Très haute estime, puisque il disait que c'était un esprit capricieux, n'est-ce pas, mais très, très fin. Quand il donnait un jugement sur une œuvre, Tourguenieff était vraiment exact. Enchanté, n'est-ce pas ? Il critiquait, il disait, non, ça, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, il est avec Anninkov, le meilleur ami de Tourguenieff, et un des plus grands critiques russes. Hein, c'est très, très, très grand, Vassili Petrovitch. Alors moi, je me suis intéressé à ce personnage au point que ça a été ma candidatske dissertatse. Ce que j'appelle la candidatske, c'est-à-dire celle qui venait avant la thèse dont je t'ai parlé. Voilà, moi je me suis pas mal étendu là-dessus. Vous avez...
En revenant à la question de votre rapport actuel à la Russie.
Alors donc les rapports actuels avec la Russie sont extrêmement clairs, n'est-ce pas ? Moi je ne m'occupe pas de politique. Si vous me demandez quel est mon parti politique, je ne peux pas vous répondre.
Non, je ne suis pas obligé d'avoir un.
Je peux avoir des opinions personnelles, mais enfin, je peux les garder pour moi. J'appartiens à aucun parti. Mm-hmm. Et ce n'est pas, c'est pas sous cet angle-là que je vois la vie, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Parce que si je voyais la vie sous cette... Je serais un autre homme, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Donc, moi, je m'intéresse surtout à la culture, n'est-ce pas ? À la musique, à la littérature, hein, et à tout ce qui peut faire le bien de l'humanité, n'est-ce pas ? Ça, c'est, pour moi, c'est très important, cette idée du bien de l'humanité, n'est-ce pas ? Mm-hmm. En plus, je l'ai trouvé chez Tourguenieff constamment, et je trouve que c'est essentiel. Parce que si vous voulez écrire simplement pour vous, il y a beaucoup de gens, des écrivains même très importants, qui écrivent pour eux, n'est-ce pas ? Ils ne s'intéressent pas au reste. Mais si vous n'avez pas le besoin d'apporter quelque chose au lecteur, je trouve que ce n'est pas la peine d'écrire. Bon, alors moi, en ce qui concerne les relations actuelles, qui sont mauvaises, n'est-ce pas, entre nos deux pays, vous le savez, ça. Enfin, c'est pas la peine de se voiler la face, de dire non, c'est pas exactement comme ça, c'est comme ça. Eh bien, moi, je déplore cette chose-là. Et je ne suis pas du tout d'accord pour fermer les yeux là-dessus. Hein. Je suis, au contraire, pour le fait de réagir de façon positive, n'est-ce pas, c'est-à-dire en faisant ce musée, par exemple, hein. En faisant des expositions, en faisant connaître la pensée russe en France. Quoi. Ça porte une espèce de joie, je crois, au lecteur, ou bien à celui qui vient visiter un musée. Hein, il est heureux de voir quelque chose. Mm-hmm. Eh bien, c'est, ne serait-ce que cela, je trouve que cela me suffit, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Voilà. Alors, moi, j'ai une grande admiration pour la Russie, pour le peuple russe, que j'aime beaucoup, n'est-ce pas ? Mais je ne suis pas russe, n'est-ce pas ? On me dit, vous êtes russe, n'est-ce pas ? Vous parlez bien le français. À quelle époque vous êtes arrivé, n'est-ce pas ? Je ne suis jamais parti. Je suis né à Paris, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Voilà. Mais enfin, les gens, vous voyez, donc, trouvent en moi, s'ils me posent ces questions, ils trouvent en moi que je suis russe, n'est-ce pas ? Et même si je dis que je ne suis pas russe, ils trouvent quand même que je suis russe.